Vous écoutez RFI, il est 8h en temps universel, 9h à Paris. Bonjour à toutes et à tous. Dans 10 minutes, vos questions à la rédaction. Et à 9h40, Mayotte dans notre débat du jour. L'État a-t-il failli à sa mission en termes d'infrastructures et de protection des populations? Comment évaluez-vous sa réponse après le passage du cyclone Chido? On en parlera ensemble, mais d'abord c'est le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. À la une, la Syrie qui tente de normaliser ses relations avec la communauté internationale 2 semaines après la chute de Bachar el-Assad. Des événements que certains Syriens avaient anticipés. Reportage dans un instant. Journée de deuil national en France, 10 de jours après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 35 morts à Mayotte. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des victimes dans les bidonvilles notamment. Sommaire aussi, Kizza Besigye, figure de l'opposition ougandaise, toujours derrière les barreaux après son enlèvement polémique au Kenya. Sa femme donne de ses nouvelles. Et puis, 200 jours, cela fait 200 jours que les Belges attendent un gouvernement. Les négociations patinent, mais un accord est espéré pour le début d'année 2025. 2 semaines après la chute de Bachar al-Assad, le nouvel homme fort de la Syrie annonce que toutes les armes du pays vont passer sous le contrôle de l'État et dit œuvrer à la protection des minorités. Déclaration hier en marge de sa rencontre avec le ministre turc des Affaires étrangères en visite à Damas. Le chef de la diplomatie jordanienne a lui aussi rendez-vous avec Abu Mohamed al-Joulani aujourd'hui qui poursuit ses efforts auprès de la communauté internationale. Mais les étapes de la transition restent encore floues pour la plupart des Syriens, même si certains s'y étaient préparés, comme dans la ville de Soeida, dans le sud du pays. Le reportage des envoyés spéciaux de RFI, Julien Boileau et Oriane Verdier.
Voilà des années que Wissam Radwan participait secrètement à différents projets associatifs depuis Soeida.
2 semaines avant le lancement de l'offensive sur Alep, plusieurs signaux nous ont alertés sur des changements imminents dans le pays. Nous avons réfléchi à différents scénarios et à un plan de protection de la société. Nous avons créé un groupe, contacté des volontaires et des gens spécialisés dans la gestion du danger, dans le domaine médical et dans d'autres compétences.
Une fois le régime tombé, ce groupe secret est entré en action parallèlement aux groupes armés locaux. Il continue aujourd'hui encore de nettoyer les rues, protéger pacifiquement les points stratégiques tels que les boulangeries ou les pharmacies. De la même manière, le réseau associatif national s'est rapidement révélé au grand jour. Depuis Soeida, Nour Salam y participe.
C'est une réponse d'urgence. Nous prévoyons d'organiser des formations aux droits civiques dans toute la Syrie. Les gens ne savent pas quelles sont les responsabilités du gouvernement intérimaire ni quel rôle ils peuvent jouer. C'est un problème, car si les gens ne sont pas conscients de leurs droits, ils ne participeront pas à l'écriture d'une nouvelle constitution. Et ce texte ne représentera pas le peuple.
They wouldn't participate and the constitution would not represent the Syrian people. Le débat au sein de la société civile est aujourd'hui de savoir quelles relations entretenir avec l'autorité de transition. Certains appellent au dialogue, d'autres refusent de la reconnaître. Julien Boileau, Oriane Verdier, Soeida, RFI.
Et hier, le chef des enquêteurs des Nations Unies sur la Syrie, dont le travail consiste à rassembler des preuves sur les atrocités commises dans le pays pendant la guerre, a indiqué hier avoir demandé au nouveau pouvoir l'autorisation d'enquêter sur le terrain. Toujours au Proche-Orient, alors que le Hamas et 2 autres groupes palestiniens ont laissé entendre samedi qu'un accord pour une trêve à Gaza était plus proche que jamais, 35 personnes sont mortes ces dernières 24 heures dans des frappes dans l'enclave palestinienne, selon la défense civile. Dans le même temps, l'aide rentre au compte-gouttes. L'une dizaine de camions d'aide humanitaire a pu distribuer de l'eau et de la nourriture en 2 mois et demi, d'après l'ONG Oxfam hier. Notez par ailleurs qu'après bientôt 1 mois de trêve entre le Hezbollah et Israël, qui s'accusent mutuellement de l'avoir violé à plusieurs reprises, 7 Libanais détenus par Israël ont été libérés hier à la frontière, remis à la FINUL selon l'agence de presse ANI. L'armée israélienne a aussi mené hier d'importants bombardements dans le village de Kfar Kila, dans le sud Liban. 11h04 à Mamoudzou et quasiment 10 jours après le passage du cyclone Chido à Mayotte, la France observe ce lundi une journée de deuil national en hommage aux victimes de cette catastrophe dont le bilan très provisoire fait état de 35 morts et 3000 blessés. Mais combien sont-ils réellement? Très difficile à dire. Nicolas Feldman et Jadel Khoury, envoyés spéciaux de RFI à Mayotte, ont suivi une enseignante à la recherche de ses élèves dans le bidonville de Magicavo Koropa au nord de Mamoudzou.
Bon, si tu vois des élèves qui étaient au collège de Magicavo, tu leur demandes de descendre au collège. Déjà, on peut vous donner à manger. Et en fait, c'est juste pour savoir qui est OK. D'accord ?
Depuis 5 jours, Sarah arpente les rues du bidonville à la recherche de ses élèves sur son téléphone. Des photos, des listes de noms qu'elle montre aux habitants.
Est-ce que là, il y en a que tu as vu ?
Azmir.
Oui, Azmir. Il est où ?
Il habite au Samba.
Et Siam et tout.
Non.
T'as pas vu? Non. Ok, ça marche.
Sur les 1700 élèves de son collège, 1400 manquent à l'appel.
Ils ne répondent pas. Plusieurs cas de figure, pas de téléphone, pas de réseau. Deuxième cas de figure, ils sont allés se réfugier quelque part, mais on ne sait pas forcément où. Troisième cas de figure, ils sont dans une zone où ils n'arrivent pas à descendre jusqu'au collège parce qu'elle est encore trop encombrée des dégâts du cyclone.
Mais pour l'enseignante, impossible d'exclure une dernière option.
C'est sûr qu'il y a des gens qui sont morts. Je ne sais pas, juste au visuel des tôles qu'on a en face de nous. Je pense que même si certains avaient survécu au cyclone, tenir une semaine en étant blessé sans boire et sans manger, je pense qu'on a forcément des victimes. Où sont passés les gens ?
Hors micro, des habitants confient que des corps auraient été enterrés juste après le passage du cyclone. Des informations impossibles à vérifier tant que les secours n'auront pas inspecté ces quartiers informels à la recherche des disparus.
Nicolas Feldman et Jadel Khoury, envoyés spéciaux de RFI à Mayotte. Alors, est-ce aujourd'hui, jour de deuil national, que François Bayrou, le Premier ministre français, va annoncer la composition de son gouvernement? Ce ne sera en tout cas pas avant 18h, heure de Paris, fait savoir à l'instant l'Élysée. Les derniers réglages étaient en cours, disait hier soir l'entourage de François Bayrou. L'actualité nous conduit maintenant en Ouganda, où Kizza Besigye, figure de l'opposition enlevée au Kenya en novembre dans des circonstances polémiques, va devoir répondre le mois prochain devant un tribunal militaire pour menace à la sécurité nationale. La semaine dernière, sa femme, Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire générale des Nations Unies, avait alerté sur cette situation car les responsables de la prison avaient suspendu les visites pour un mois avant de se rétracter. Entre-temps, elle a pu lui rendre visite.
Je l'ai vu et il tient le coup. C'est quelqu'un qui sait endurer, qui sait persévérer. Quand ils ont annoncé qu'ils interdisaient les visites, cela m'a beaucoup inquiétée. J'avais prévu de m'y opposer, mais heureusement, ils ont changé d'avis et j'ai pu rendre visite à mon époux. Dans tous les cas, ce n'est pas une situation normale. Tout d'abord, il a été enlevé au Kenya. Les personnes qui l'ont enlevé sont des agents de sécurité du gouvernement ougandais. Ils l'ont conduit sur plus de 500 kilomètres et l'ont jeté dans une prison militaire. Lorsque nous avons protesté, ils l'ont transféré dans une prison civile, mais ils l'ont tout de même inculpé devant un tribunal militaire, alors que la loi stipule bien que l'on ne peut pas juger un civil devant un tribunal militaire. Donc, dans toute cette affaire, que ce soit la façon dont ils l'ont arrêté, la façon dont ils l'ont maintenu en prison, le tribunal où ils l'inculpent, tout est irrégulier, illégal et criminel.
Le procès de Kizza Besigye est prévu dans 15 jours. Alors que l'Ukraine compte mettre fin le 1er janvier au contrat qui permet au gaz russe de transiter par son territoire, Vladimir Poutine a reçu hier Robert Fico, le premier ministre slovaque, au Kremlin. C'est dans ce contexte que plus de 1000 soldats nord-coréens déployés en Russie pour combattre l'Ukraine ont été tués ou blessés sur le front. Des chiffres communiqués ce matin par le comité des chefs d'état-major interarmés sud-coréens. Retour en Europe et la France n'est pas le seul pays en quête d'un gouvernement. La Belgique en attend un depuis près de 200 jours maintenant. Depuis les législatives du 9 juin, la victoire de la droite et du centre droit, les discussions entre les cinq partis flamands et francophones patinent. Mais un accord est attendu pour le début d'année prochaine. Les explications à Bruxelles de Jean-Jacques Herry.
Les médias belges n'arrivent plus à compter le nombre de visites effectuées par Bart De Wever au Palais Royal. Celle de vendredi dernier était la 14e selon certains, la 16e disent d'autres, pour celui qui a été nommé formateur en charge des discussions de coalition. C'est à ce titre que le chef de la NVA, les conservateurs flamands, doit rendre compte régulièrement au roi Philippe de l'avancée des négociations entre les cinq partis théoriquement prêts à passer un accord. Autour de la table, les conservateurs du NVA, les chrétiens démocrates et les socialistes côté flamand, les libéraux du MR et les centristes côté wallon. Et malgré des rencontres quotidiennes, il y a toujours des désaccords entre eux, essentiellement sur des questions budgétaires. Il faudrait dégager 20 milliards d'euros pour assainir les comptes belges, mais avec quelles économies et quelles recettes supplémentaires? C'est toute la question, alors que les libéraux refusent toute hausse d'impôts, quand les centristes et les socialistes rechignent, eux, à faire des économies sur le système de santé fédéral, le droit d'asile ou encore l'assurance chômage. Même si pour le moment, on est encore loin du record de 2010-2011 avec 541 jours sans gouvernement, le roi des Belges, lui, semble commencer à se lasser, disant espérer une percée décisive début 2025. Et alors que les négociations doivent reprendre aujourd'hui, nul doute que les téléphones des politiques belges vont chauffer pendant toute la période des fêtes. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
9h10 à Paris, 8h10, temps universel. On vous retrouve, Nathalie Amar.
Merci, Alban Leprince. Bonne journée à vous.